French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
Exactement, et on a vraiment adoré ce voyage. Et quand on est rentré, vraiment, ça a été un crève-cœur. Et voilà, on a dû retrouver des boulots, reprendre une vie normale. Assez vite, on s'est dit quand même, ça nous manque. Il y a un truc inachevé dans ce voyage. On a envie d'y vivre. Donc on s'est dit, allez, on va essayer quand même d'aller vivre aux États-Unis. Surtout, assez vite, on s'est rendu compte que quand même, ça allait être un peu compliqué. Et là, c'est à ce moment-là qu'on a pensé au PVT Canada. Le Canada, ça nous avait bien plu aussi. On se voyait bien partir au Québec une année.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Charlotte, une des membres de la team French Expat, le podcast, et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast, saison 2. J'ai hâte de vous dévoiler notre nouvelle invitée et son histoire étonnante et fascinante. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonne écoute!
Mon invité du jour nous parle depuis la France. Anne-Florence, journaliste, est passionnée de voyage, tout comme son mari. Après 2 road trips de 3 mois, il décide de tenter l'expérience de l'expatriation. C'est à Calgary, en Alberta, au Canada, qu'ils poseront leurs valises. Anne-Florence a l'opportunité de travailler comme journaliste dans la Gazette de la ville, ce qui lui permet d'une part de s'intégrer plus facilement et de rencontrer les locaux, d'y faire donc de belles rencontres. Après quelques déboires professionnels pour son mari, il décide de quitter Calgary pour reprendre les routes et l'aventure. Flo partage alors sur son blog leur belle découverte. Mais comme je vous le disais plus tôt, c'est depuis la France que nous avons enregistré cette interview. Dans cet épisode, Flo revient sur ce retour en France. Elle nous explique les sentiments ambivalents qui les assaillent depuis leur retour. Une forte envie de repartir, mais aussi le sentiment d'être bien, d'être enfin posé. Je vous souhaite donc à tous une belle écoute.
Bonjour Anne-Florence, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast.
Bonjour.
J'espère que tu vas bien.
Oui, très bien, et toi?
Super. C'est un plaisir de t'avoir sur cet épisode et nous avons hâte que tu nous racontes ton histoire, votre histoire d'expatriation. Et il me semble en plus qu'il est un peu particulière car vous êtes ex-expat.
Exactement.
Très bien. Alors vas-y, raconte-nous d'abord d'où est-ce que tu nous parles. Qui es-tu? Qui est Anne-Florence?
Alors, donc, je m'appelle Anne-Florence, mais en fait, dans les faits, tout le monde m'appelle Flo. J'ai 31 ans, je vis en banlieue parisienne, dans le sud, au sud de Paris, dans les Hauts-de-Seine. J'ai un mari qui s'appelle Rémi et j'ai une petite fille qui a bientôt 3 ans qui s'appelle Lou.
D'accord. Donc, la famille au complet.
Voilà.
Voilà, on a les présentations.
C'est ça.
Donc, tu nous parles de banlieue parisienne. Donc, comme
exactement.
On disait, tu es ex-expat. Et où es-tu partie? Êtes-vous partie?
Alors, tout d'abord, on a déjà beaucoup voyagé. On a fait 2 road trips de 3 mois chacun aux États-Unis et au Canada. Et on a vécu...
Séparément?
Oui, deux fois, à 2-3 années d'écart. Et on est parti vivre à Calgary, au Canada.
Donc, Calgary, est-ce que tu peux nous le situer par rapport...
Oui, bien sûr, moi non plus, je ne savais pas vraiment.
Ouais.
Alors, par rapport à Montréal, c'est très loin. En fait, Calgary, c'est entre le centre et l'ouest du pays, si tu veux. C'est dans une province qui s'appelle l'Alberta.
D'accord.
Et c'est à peu près à 1000 km de Vancouver.
D'accord. Ah oui, c'est dans les terres, en fait, loin des...
C'est dans les terres, exactement. En fait, c'est dans les montagnes. Enfin, c'est à 1300 mètres, je crois, d'altitude. Donc, c'est déjà pas mal en hauteur. Et c'est à 1 heure des Rocheuses.
Ok. D'accord. Pour revenir juste avant, tu parlais de road trip. Est-ce que vous avez toujours aimé voyager? Vous avez toujours dit on voyagera seul ou ensemble?
Alors, pas tellement. Moi, j'ai pas beaucoup voyagé quand j'étais petite, mon mari non plus. Et en fait, nous, on s'est rencontrés quand on avait 18 ans. Et à la fin de nos études, on s'est dit, bah tiens, ça serait bien quand même de partir aux États-Unis. En fait, moi, j'ai toujours eu une fascination pour San Francisco. D'accord. Depuis que je suis pré-ado, on va dire, j'avais découvert à l'époque les Chroniques de San Francisco, qui sont une saga littéraire. Oui. Tu connais, ouais. Il m'a vraiment subjuguée. Enfin, vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur et je me suis toujours dit, voilà, un jour, il faut vraiment que j'y aille. Et donc, voilà, on s'est dit, pourquoi pas s'organiser un petit voyage à San Francisco. Et en fait, très vite, on s'est dit, mais c'est quand même dommage d'aller en Californie et puis de pas aller à Los Angeles. Et puis, voilà, on va quand même pas aller aux États-Unis puis pas voir d'autres grandes villes, Chicago, New York.
C'est ça, de s'arrêter à une seule ville.
Exactement. On s'est dit, quitte à faire autant d'heures d'avion et à être là-bas, autant se faire vraiment un gros voyage. Donc, en fait, pendant 18 mois, on a organisé ça petit à petit. Et c'est vrai que, voilà, assez vite, on a eu un peu les yeux plus gros que le ventre. Et on s'est vraiment organisé 3 mois de road trip.
Ah oui, finalement, on se rend compte que les distances sont tellement longues entre chaque point et qu'il y a tellement de choses à voir.
C'est ça, exactement. Donc, en fait, on est parti fin 2012. Donc voilà, de septembre à décembre en fait, 3 mois complets, et on s'est fait donc un road trip, alors pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, hein, parce qu'on s'est dit autant aller aussi au Canada, hein, puisqu'on est dans le coin. Donc on a fait aussi le Québec, l'Ontario et Vancouver.
Et vous étiez déjà dans une optique de vivre à l'étranger ou pas du tout au moment de ce road trip?
Pas du tout, c'était vraiment un voyage pour fêter un peu la fin des études avant de vraiment se lancer dans le grand bain de la vie. De se poser quoi dans une vie, on s'est dit c'est le moment en fait. On n'aura plus jamais l'occasion de
partir aussi longtemps.
C'est ça exactement avec le travail. Après, enfin, mon mari travaillait déjà depuis plusieurs années, du coup il a démissionné en fait pour partir en voyage. Et moi je venais juste d'être diplômée. Ouais.
Et alors est-ce que on peut te demander en quoi tu es diplômée?
Oui, tout à fait. Alors, j'ai fait une prépa. En fait, nous, on s'est rencontrés en prépa économique. Lui, ensuite, d'accord, il a complètement bifurqué. Il est parti en boulangerie, donc rien à voir. Et moi, j'ai fait une école de commerce et depuis, je suis rédactrice web.
Ok. Du coup, c'est ce qui t'a permis de partir par la suite en tant qu'expatriée au Canada.
C'est ça. Voilà, exactement.
Okay. D'accord. Donc, vous revenez de ce road trip fin 2012.
Voilà, donc en fait, c'est un premier road trip qu'on a vraiment organisé complètement. C'est-à-dire qu'avant de partir, on savait vraiment tel jour où on serait, tel train, tel avion, etc. Vraiment, c'était organisé au poil, on va dire.
Millimétré.
Et c'était génial. Voilà, exactement. Et on a vraiment adoré ce voyage. Et quand on est rentré, vraiment, ça a été un crève-cœur. Et voilà, on a dû retrouver des boulots, reprendre une vie normale. Et on était vraiment très, très malheureux, en fait. On avait tous les deux des boulots vraiment pourris. C'était assez difficile et donc assez vite on s'est dit quand même ça nous manque, il y a un truc inachevé dans ce voyage, on a envie d'y vivre, donc on s'est dit allez on va essayer quand même d'aller vivre aux États-Unis, surtout que mon mari qui était mon copain à l'époque avait déjà eu une proposition de travail dans un restaurant boulangerie à Cape Cod.
D'accord.
Et en fait moi à l'époque j'étais encore étudiante et puis bon j'aurais difficilement trouvé un travail là-bas, donc on avait laissé tomber.
Avec mais regret
avec un petit peu de regret, mais pas plus que ça non plus. C'est vrai que Cape Cod, du coup, on est allé le visiter en 2012. C'est vraiment magnifique, mais c'est quand même très isolé. Et vraiment, je pense que ça aurait été compliqué pour moi. Soit j'aurais pas travaillé, j'aurais vraiment été très isolée, soit ça aurait été compliqué.
Oui, il faut prendre en compte tout ça, en fait. C'est vrai qu'il y a aussi l'aspect derrière. Si un des deux a un poste, est-ce que l'autre pourra en trouver un? Est-ce qu'il ne sera pas, comme tu dis, isolé et aura une vie sociale aussi?
Tout à fait, ouais.
Ouais.
C'est ça.
Donc, du coup, vous avez repris vos boulots et...
On a repris nos boulots.
Et... Bon an, mal an, quoi.
Voilà. Et puis, au bout de peut-être un an, on s'est dit, donc on avait ce projet d'aller vivre aux États-Unis. Assez vite, on s'est rendu compte que quand même, ça allait être un peu compliqué. Et là, c'est à ce moment-là qu'on a pensé au PVT Canada. Le Canada, ça nous avait bien plu aussi. On se voyait bien partir au Québec une année. Donc, du coup, on a fait le PVT. Alors, en fait, à l'époque, maintenant, c'est un petit peu différent. Mais à l'époque, c'était vraiment premier arrivé, premier servi. Donc, il fallait se connecter.
Donc, on est en 2014, c'est ça, quand vous faites la demande?
Alors, à ce moment-là, on est en 2013-2014 à peu près. Voilà, exactement.
D'accord. Et c'est-à-dire premier arrivé, premier servi?
Alors, en fait, tu as un jour et une heure où il faut se connecter. Et puis, si tu arrives à avoir le PVT, tu l'as, quoi. Si tu arrives à cliquer sur le truc. Et en fait, il y a plein de bugs. Enfin, faut penser qu'il y a des milliers de personnes.
Eh ben oui, il y a tellement de personnes.
Qui se connectent exactement à la même seconde. Et puis, quoi. Alors, moi, j'ai eu de la chance, je l'ai eu.
D'accord.
Et pas mon mari.
Ah!
Alors, voilà.
Vous étiez mariée à l'époque ?
Non, pas du tout, pas du tout. Je dis mon mari, mais on était, non, on n'était pas mariés à ce moment-là.
Parce que ça doit avoir une incidence, j'imagine. Si l'un, si vous êtes marié et que l'un l'a, l'autre l'obtient.
Alors, pour le PVT, je pense pas. Je pense pas, parce que c'est quand même très précaire comme, comme contrat.
Ah oui.
Mais par contre, si oui, s'il avait eu, enfin, si moi j'avais eu, par exemple, un autre permis de travail et qu'on était mariés, là oui, ou même conjoint de fait, hein, parce qu'au Canada, ils reconnaissent les personnes qui vivent ensemble depuis un certain nombre d'années sans être mariées.
D'accord.
Sans doute qu'on aurait pu faire quelque chose à ce niveau-là. Mais en fait, bon, du coup, comme il est boulanger, on s'est dit, bon, il devrait quand même pas avoir trop de difficultés à trouver un travail, sachant que c'est quand même un métier qui est assez recherché dans pas mal de pays. Donc, il a postulé au Québec. Donc, il a eu quelques entretiens à Montréal, dans le sud du Québec aussi. Ça se passait plutôt bien, c'était en bonne voie. Et à ce moment-là, en fait, il y a un espèce de... Je ne sais plus si c'était un décret ou une loi qui est passée interdisant l'embauche des étrangers dans la restauration, dont la boulangerie.
Ah mince, comme ça ?
Voilà, ouais, parce qu'en fait, à Montréal, il y avait vraiment trop de Français qui travaillaient en tant que serveurs, barman, et que ça commençait, voilà, enfin, à pas leur plaire, en tout cas. Alors, c'est un décret, je crois, qui a pas dû rester longtemps, peut-être un an, mais nous, du coup, bah, ça a complètement contrecarré nos plans.
Ah bah oui, du coup.
Et voilà, donc le Québec, c'était plus possible. Donc, on s'est dit, bah, tant pis, on va voir pour d'autres provinces. Donc, il a postulé un peu partout, là où, partout où il y avait des boulangeries, en fait, donc dans toutes les grandes villes. Et d'ailleurs, on avait un peu hésité à postuler dans les provinces du centre, parce que voilà, on avait un peu des a priori. On s'est dit, c'est un peu loin de tout, il doit faire encore plus froid. Enfin, il y a un petit peu rien, tu vois. C'est, on avait complètement des a priori. Puis finalement, bon, il a quand même postulé à un poste à Calgary, dont on ne connaissait absolument rien à l'époque. Et il a eu deux entretiens, donc un à Calgary et un dans le nord de l'île de Vancouver.
Ok.
Et en fait, donc les deux étaient partants pour l'embaucher. Mais celui de l'île de Vancouver, en fait, nous, ce qui nous a bloqué, c'est exactement la même chose que pour Cape Cod, c'est que c'était vraiment trop isolé et que j'aurais pas pu travailler là-bas.
Parce que du coup, le métier que tu fais actuellement, tu le faisais pas à l'époque ?
Si, si, je le faisais, mais si tu veux, là où était située la boulangerie, c'était vraiment un tout petit village, enfin vraiment, il y avait rien autour, quoi. La grande ville de l'île de Vancouver, elle est tout au sud, et là, c'était tout au nord, donc vraiment, j'aurais pas pu y aller. Là.
D'accord.
J'aurais pas.
Ah oui, tous les jours faire l'aller-retour, non, c'était pas possible.
Ouais, d'accord. Non, là, je pense qu'il y aurait eu 5 heures de route, tu vois, donc c'était vraiment pas possible du tout.
Ouais, c'est vrai qu'on oublie les distances à chaque fois.
Oui, oui, oui. C'est une île, mais c'est quand même assez grand.
Ouais.
Donc, du coup, bah, on est parti sur le poste de Calgary.
Donc, du coup, toi, tu avais obtenu ton PVT à ce moment-là.
Voilà, moi, j'avais mon PVT, donc je pouvais partir quand je voulais, dans l'espace d'un an, quoi. Et puis, et du coup, il durait un an à partir de la date où je posais le pied au Canada.
D'accord. Ok, donc une fois qu'on l'obtient, on a un an pour partir. Et une fois qu'on est sur place, on a un an sur place. D'accord.
Voilà. Alors, c'était la dernière année où c'était un an seulement. L'année suivante, c'est passé à 2 ans, le PVT Canada. Donc maintenant, d'accord, en fait, voilà, quand tu l'obtiens, tu peux rester 2 ans sur place. Voilà.
Ok. Et ton mari, lui, ce n'est pas un PVT, c'est un permis travail fermé, c'est ce que tu me disais.
Voilà, ça s'appelle un permis fermé. Donc, tu as le permis ouvert qui te permet de travailler pour n'importe quelle entreprise. Alors, peut-être dans ton domaine, mais en tout cas, c'est quand même assez ouvert. Et le permis fermé, c'est seulement pour ton employeur et personne d'autre.
Celui qui t'a sponsorisé.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
C'est un peu comme aux États-Unis, il faut prouver qu'ils ne pouvaient pas embaucher un Canadien.
D'accord, il y a une recherche à faire avant pour l'entreprise.
Ouais, ouais, c'est quand même un petit peu long comme processus, ouais.
Quand vous êtes partie, vu que ton mari, il avait ce permis qui était affilié à la boulangerie, c'est ça, hein ?
Mm-hmm. Ouais, c'est ça, ouais.
Ils vous ont aidé pour les démarches, pour trouver un logement, pour venir ?
Non, c'était vraiment une toute petite entreprise, tu vois, ils n'étaient même pas 10 salariés, je pense, donc... Non, on s'est débrouillé tout seul, on a trouvé un appartement meublé voilà, qu'on a réservé à distance. Hein, on a eu un peu peur, hein, d'ailleurs, on s'est dit, c'est qui tout double, on peut très bien, ça peut très bien être une arnaque et qu'on a envoyé de l'argent pour rien, quoi, mais non, on a eu de la chance, c'était pas du tout une arnaque.
D'accord.
Donc on est arrivé là-bas en septembre 2014, donc on s'est installé, je crois qu'on est arrivé un vendredi et puis il a dû commencer à travailler le lundi.
Ouf.
Et
c'est
ouais,
dur.
Ouais, ça l'a... Ouais. Après, c'est nous aussi qui avions choisi de. En fait, on est arrivé d'abord à New York et à Québec pour voir des amis. On a profité d'être sur le continent pour revoir des amis avant de s'installer.
D'accord.
Donc, on aurait pu aussi très bien, tu vois, arriver plus tôt et puis voilà.
Et prendre le temps. Oui, oui. Vous étiez jeunes, vous aviez le temps.
Oui, oui. C'est ça. D'ailleurs, dès le lendemain de notre arrivée, on a loué une voiture et on est parti dans les Rocheuses à Banff.
Ah ouais.
travers les lacs. Et tout. Ouais,
aventurier jusqu'au bout.
C'est ça. Et donc, il dit, a commencé à travailler lundi. Et en fait, moi, la première semaine, ça a été très dur pour moi. J'étais vraiment très déprimée. Je me disais, mais pourquoi on est parti? Je connais personne. J'ai pas de boulot. Je suis loin de mes proches. Enfin, vraiment, c'était compliqué.
Tu t'attendais à avoir ce ressenti?
Non. Pour moi, j'étais super excitée à l'idée de partir. Enfin, vraiment, j'ai pas compris. Ça m'est tombé dessus comme ça. Et en fait, cette première semaine, j'ai vu passer une offre d'emploi sur Facebook pour un journal francophone en Alberta qui s'appelle Le Franco, qui cherchait une journaliste à Calgary. Donc je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. C'est exactement ce que je cherche.
C'est une chance.
Ah ouais, complètement. Donc le vendredi, j'ai fait un entretien avec la rédactrice en chef et puis elle m'a dit, bon, tu commences tout de suite.
Et alors, en quoi consistait cette émission?
Alors du coup, en fait, ce journal est basé à Edmonton. En fait, Edmonton, c'est la capitale de l'Alberta et c'est à 4 heures au nord de Calgary. Et ils ont une petite édition spéciale Calgary, parce que c'est quand même la ville la plus importante de la province. Donc en fait, tout le reste de la rédaction est basé à Edmonton et moi, j'étais toute seule à Calgary et je devais du coup alimenter ce journal, qui est un journal papier. Je devais du coup faire des interviews, des sujets de fond, des enquêtes, de l'actualité. Donc c'était vraiment basé sur toute la communauté francophone.
Tout sur la ville.
Voilà, mais vraiment sur la communauté francophone. Donc les Français, les Québécois, les Franco-Albertains, etc. Ouais.
Il y a une grosse communauté francophone à Alberta, enfin dans l'Alberta.
Alors oui, parce qu'il y a déjà des natifs de l'Alberta qui sont francophones. D'accord. De naissance. Et puis tu as beaucoup de Québécois, tu as beaucoup de communautés francophones qui viennent d'Afrique aussi, et puis tu as à peu près un millier de Français, et sans doute aussi quelques Belges et Suisses. Enfin voilà, c'est pas une énorme communauté par rapport à d'autres villes, mais c'est vrai que voilà, elle a quand même le mérite d'exister. Okay.
Et ce n'était pas trop compliqué de, en arrivant du continent, enfin de la métro, de France en fait, de se faire accepter par les locaux?
Non, j'ai pas trouvé ça compliqué. Les gens sont assez chaleureux. Alors, je sais pas si c'est exactement pareil aux États-Unis, mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que souvent, les Canadiens sont très très chaleureux, mais c'est un peu plus compliqué de créer une vraie relation avec eux. On est plus dans la superficialité, mais vraiment hyper gentil, hyper agréable. J'ai pas eu de soucis du tout. Et puis avec les francophones, encore moins, il y avait moins de barrières. Et puis de toute façon, comme je me présentais comme la journaliste, les gens étaient vraiment très gentils. Enfin voilà, moi j'ai adoré ce travail, vraiment. En plus, j'étais très indépendante du coup, comme j'étais toute seule dans la ville. J'avais un bureau, mais bon, en général, je travaillais de chez moi. J'étais tout le temps partie en reportage, etc. Enfin vraiment, j'ai adoré.
Et ça, ce travail, tu l'as trouvé, tu disais, une quinzaine de jours après votre arrivée?
Même pas, je crois que j'ai postulé 5 jours après mon arrivée, je faisais l'entretien, quoi.
Donc finalement, la petite descente émotionnelle que tu avais eue au départ, elle est vite partie et
voilà. Elle n'a pas duré. C'était juste la première semaine et puis dès que j'ai commencé à travailler, ça s'est envolé.
Tu t'es plongé dans le travail et ça allait.
Ouais. Non, franchement, après là, c'était génial. Hein. Pour moi, c'était un rêve. Cette vie à Calgary, j'ai vraiment adoré. En fait, il y a eu un seul point noir, c'était le travail de mon mari, où ça s'est pas très bien passé. Et en fait, assez rapidement, on était presque sur un cas de harcèlement moral de la part de son employeur, si tu veux.
D'accord.
Donc voilà, lui, il le vivait vraiment mal. Et au bout de quelques mois, voilà, il s'est dit vraiment, je peux pas continuer, va falloir que je démissionne. Donc il a démissionné quasiment au bout de 6 mois de vie là-bas. Et le problème, c'est que comme il avait un permis fermé, il ne pouvait pas travailler pour un autre employeur.
Mais il pouvait rester le temps de la fin de ce permis ?
Voilà, tout à fait. Il avait le droit de rester encore 6 mois sur le territoire sans souci. C'est juste que du coup, il n'avait plus de revenus, quoi.
D'accord. Et comment vous avez fait ? Voilà. C'est toi, qui as tout financé. Vous aviez de quoi revenir ?
On a réfléchi longuement. Moi, j'ai travaillé qu'à 20 heures par semaine, donc je n'avais pas un salaire complet. Alors en plus c'était dommage parce qu'il y avait une autre boulangerie de la ville qui était une boulangerie française en plus qui voulait l'embaucher, mais voilà, bon, c'était vraiment trop compliqué au niveau des visas. Et du coup on a pris la décision de partir au bout de 6 mois et de continuer à voyager comme on avait fait quelques années plus tôt.
D'accord. Ah super. Et du coup tu as démissionné toi aussi de ton travail?
Bah du coup, alors moi j'étais en contrat, alors je sais plus comment ça s'appelle, un genre de CDD si tu veux, donc j'avais fait plusieurs CDD, donc à la fin d'un des CDD, juste après c'est dommage parce qu'ils allaient m'embaucher en CDI, enfin l'équivalent du CDI, mais du coup voilà, j'ai dû dire que...
Stop, on arrête là. Et... D'accord.
Voilà, ouais. Ouais. C'était vraiment difficile pour nous de quitter Calgary, on a tellement aimé cette vie que... Mais bon.
Et vous êtes partie où pendant tout ce temps finalement, les derniers mois avant de rentrer en France?
Alors du coup, en fait, on s'est... Alors contrairement à notre premier road trip où vraiment on avait tout organisé au millimètre, là on s'est dit, on se laisse porter, on verra bien, on prend pas de billets d'avion de retour, si on veut voyager 6 mois, voilà, on verra en fonction de nos finances et puis en fonction de nos envies. Et alors on a commencé par Hawaï. En fait, au premier voyage, je t'ai pas trop dit où on était allé, on avait fait beaucoup la côte.
Non, oui. Alors on fait un bond en arrière, on repart en 2012. Allez, c'est parti.
On repart. Mais en fait, on avait fait le Québec, l'Ontario, on avait fait Chicago, Boston, Philadelphie, New York, la Floride, la Géorgie. On avait fait un petit peu le Texas, la Louisiane aussi. Et puis ensuite, on avait beaucoup fait tous les parcs de l'Ouest, du Sud-Ouest, mm-hmm. en fait, américain. La Californie. On avait passé 3 semaines à San Francisco parce que c'était quand même la ville que je voulais découvrir. Donc ça, c'était vraiment génial. Et puis, on était reparti ensuite vers le nord. On avait fait Seattle. Et puis, on avait terminé sur Vancouver.
Ouais, c'est quand même c'était un très beau road trip.
Ouais, ah oui, vraiment très, très beau, ouais. Et donc là, cette fois-ci, on a commencé par 2 semaines à Hawaï. Et en fait, on voulait que ce soit un voyage vraiment assez peu coûteux. Donc, on a décidé de faire beaucoup de coach surfing, de woofing. Mm-hmm. Donc, coach surfing, c'est quand on est hébergé par quelqu'un gratuitement, mais qu'on l'aide, voilà, dans la vie quotidienne. Et le woofing, c'est quand on travaille gratuitement aussi, mais contre un toit et de la nourriture.
D'accord. Et donc, ça peut être travailler, c'est-à-dire de faire des réparations à la maison?
Non, en général, c'est plus dans des fermes. Donc, ça va être des récoltes. En fait, nous, on en a fait 2, des woofing. On en a fait un à Hawaï, où on travaillait dans une plantation de café. Et ensuite, on en a fait un dans le nord de la Californie, à la Mendocino Valley, qui est un peu comme la Napa Valley, et où on travaillait sur les vignes.
OK.
Donc, voilà. Mais voilà, donc c'est super intéressant. En plus, tu peux rencontrer vraiment des gens super. Le seul truc, c'est qu'en général, t'es très mal hébergé. Tu sais, tu vis vraiment, c'est dans une grange ou sous une tente.
C'est spartiate.
Voilà, c'est très spartiate, voilà. Exactement. Donc on a cherché vraiment ce genre de choses pour économiser un peu sur notre voyage et pouvoir voyager plus longtemps.
Et donc du coup, ça pour ce premier road trip, vous l'avez reproduit pour le second en vous disant on prend le temps, donc.
Non, ça, c'était sur le second. Le premier, on n'avait pas fait ce genre de choses.
Ah, ça, c'est sur le second, pardon. Autant pour moi.
Donc, en fait, on a fait... Donc, voilà, comme je te disais, donc on a fait Hawaï, on a fait la Californie à nouveau. Alors, dans les nouveautés... Parce qu'on est retourné dans les endroits qui nous avaient vraiment plu. Et on a aussi fait d'autres endroits, hein, bien sûr. On a fait notamment Yellowstone, qui était un de mes endroits que j'ai fait.
Ouais.
Ah ouais, super.
Ah, magnifique.
On a fait Portland, ouais. Oregon. On a fait aussi Portland, Maine, d'ailleurs. Oui, on a fait le Maine, le Vermont.
Ah, vous avez vraiment aussi fait la côte Est?
Oui, un petit peu, ouais. Le Nord, ouais, seulement. Enfin, on est retourné en Floride aussi. On est retourné au Texas. On a fait la Géorgie, c'était le premier. On a fait le Tennessee, que j'ai beaucoup aimé. Le Colorado. Enfin, voilà, on a fait un peu des nouveautés. Alors, c'était bien, mais on a beaucoup moins aimé ce voyage dans le sens où je pense que nous, on a besoin de tout organiser à l'avance. Et là, c'était un peu compliqué pour nous de jamais savoir un peu où on allait ensuite. Il fallait toujours réserver pour le lendemain. Au final, ça nous prenait beaucoup de temps parce qu'il fallait trouver quand même des trucs pas trop chers. Sauf que quand tu réserves au dernier moment, bah, c'est pas toujours possible. Soit c'est plein, soit c'est hyper cher, quoi. Donc, ça nous prenait beaucoup de temps.
Vous aviez votre propre voiture? Vous aviez loué une voiture pour ce voyage?
Alors, on n'a pas loué une voiture sur tout le voyage. En fait, que ce soit pour le premier ou le deuxième road trip, on a loué des voitures à certains endroits, si tu veux.
D'accord.
Tu vois, pour faire des boucles, et voilà. Mais on n'avait pas une voiture de bout en bout. Donc, on se trimballait quand même beaucoup avec nos gros sacs de rando. Enfin, c'était quand même beaucoup de galère, tu vois.
De logistique. Ça, limite,
ouais, c'est ça. Mais ça, à la limite, c'est pas très grave. C'est vraiment le fait d'avoir dû vraiment se pencher longtemps sur l'ordinateur pour trouver. Ça, je trouve que ça gâche vraiment. Enfin, le temps que tu passes sur l'ordinateur, tu le passes pas à découvrir des endroits.
Ouais.
Voilà. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ne pas organiser et puis vraiment voir au jour le jour. Mais pour nous, en fait, c'est pas un truc bien pour nous. Et du coup, au bout d'à peu près, je dirais 2-3 mois de voyage, on s'est dit, là, on n'en peut plus, quoi. Enfin, moralement et physiquement, on était épuisés, on se prenait jamais de pause. Parce que certes, c'est un voyage, donc c'est cool. Mais en fait, tu te poses jamais parce que tu culpabilises, en fait. Si tu fais une journée où tu fais rien,
tu dis, je vais manquer des choses.
bah ouais, puis tu dis c'est quand même dommage, je suis dans un décor de rêve, tout le monde rêverait d'être à notre place, tu vois, faut en profiter à fond, mais en fait quand on profite à fond, bah t'es aussi crevé quoi.
Ça a été notre première erreur dans notre premier, tout premier road trip aux US.
Ouais,
ça. On était debout à 5 heures et on se couchait pas avant 22 heures et chaque minute était pleine.
C'est ça.
Chaque heure, tout était chronométré, millimétré. Et les road trips d'après, on a effectivement, on s'est accordé des après-midi, même si c'est, on a du mal à se dire bon, il faut lâcher, de après-midi de relâche ou une matinée plus tranquille où on prend un petit déj plus conséquent en se posant. Et c'est vrai que ça fait du bien en fait. Il faut pour bien visiter, il faut aussi s'accorder des temps.
Ouais, exactement. Ça, c'est ce qu'on a appris aussi pendant ce voyage. Et donc, en fait, au bout de 2-3 mois, on s'est posé une journée entière sur l'ordinateur à tout réserver.
Ah oui.
Tout réserver le
reste. Pour la suite.
Voilà. Donc, exactement. Et du coup, le dernier mois de voyage, ça a été super.
Plus serein.
Voilà. Ah ouais, on avait un poids qui s'est envolé, on pouvait profiter complètement, on savait qu'on avait toujours quelque chose de prévu, qu'on avait un billet d'avion de retour réservé également. Donc, le dernier mois, en fait, on a fait tout ce qui était le Maine, le Vermont, New Hampshire. Et on a fait à nouveau le Québec, mais aussi le New Brunswick et l'île du Prince-Édouard. Et la Gaspésie aussi, qui est au nord du Québec, qui est vraiment un endroit magnifique.
Ça doit être magnifique là-bas.
Ah, c'est super. Franchement, mais tout était magnifique. On en a pris plein les yeux. Et on a fini sur l'île de Vancouver, donc tout à l'ouest.
Super.
Et voilà. Ouais. Et c'était vraiment...
Quel beau voyage.
Ouais, carrément.
Et du coup, vous partiez sans regret au final. Vous avez vu tout ce que vous vouliez voir.
Voilà, exactement. Quand on est rentré en France, là, à ce moment-là, vraiment, on est rentré plus serein. On s'est dit, c'est le moment de rentrer. Enfin, c'était complètement différent du premier road trip où vraiment, moi, je te dis, j'avais pleuré pendant 24 heures non-stop, limite, tellement j'avais le cœur brisé de rentrer. Là, pas du tout, quoi. On s'est dit, voilà, on en a pris plein les yeux. Il est temps de rentrer. Enfin, tout va bien, quoi.
D'accord. Vous finissez ce voyage. C'est une question que je t'ai pas posée au tout début, mais quand vous êtes parti pour Calgary, vous êtes parti juste avec vos bagages, vos valises.
Oui. Oui, exactement. On avait juste deux valises et en fait, on avait loué un meublé. Donc,
voilà, donc tout était en France, léger, chez vos parents, des amis, de la famille.
Exactement. Ouais. Donc on avait tout laissé.
De ce voyage, on est en quelle année, quel mois?
Voilà. Alors. On est à l'été 2015, donc on rentre, on se réinstalle, on trouve des boulots, on se marie aussi en 2016, et puis fin 2016, je tombe enceinte de ma fille. Donc vraiment, voilà, on se pose, on s'installe, on se fait notre petite vie en banlieue parisienne. Et voilà, et ça, c'est la vie qu'on a maintenant jusqu'à maintenant, donc les cinq dernières années qui ont passé très vite, finalement. Et puis, j'ai aussi créé mon entreprise de rédaction web. Donc maintenant, je travaille à mon compte en indépendante.
D'accord. Est-ce que ce voyage, une fois que vous êtes rentrée de cette première expatriation, vous vous êtes dit, on repartira, c'est sûr, à un moment donné?
Ouais. Quand on est rentrée, on était sûr de nous. On s'est dit, c'était trop court, c'est inachevé, c'est sûr qu'on repartira. Et en fait, depuis, on change tout le temps d'avis. C'est-à-dire que vraiment, il y a des moments où on se dit non mais c'est sûr qu'on repartira un jour, enfin ça nous manque trop, faut qu'on le vive le truc à fond, voilà. Et il y a des moments où on se dit bah quand même maintenant on est bien posé, enfin tu vois on a notre petite fille et tout, et c'est aussi plus compliqué de partir quoi. Et en fait ce qui est marrant c'est qu'en général on n'est pas du tout en phase là-dessus.
Ah oui,
quand c'est mon mari qui a envie de repartir, moi voilà j'ai pas trop envie et puis après c'est l'inverse tu vois, enfin voilà. Bon, clairement il y a un truc d'inachevé, tu vois, qu'on n'arrive pas
à savoir si c'est il faut passer, tourner la page ou s'il y a encore quelque chose à faire.
Ouais, exactement. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans les années qui viennent, je pense qu'on n'a pas envie de ça tout de suite, mais c'est vrai que des fois, on se pose la question pour plus tard ou même peut-être juste repartir un an, peut-être avec notre fille quand elle sera plus grande ou voilà.
Mais, elle sait à quel âge votre petite puce, là?
Alors, elle a bientôt 3 ans et en fait, on est retourné au Canada avec elle l'an dernier. Pour lui montrer un peu, on est parti 3 semaines, faire un road trip en Alberta et un petit peu dans le Montana aussi. Mais bon, elle était petite, tu vois, elle avait même pas 2 ans à l'époque, donc là, elle s'en souvient même plus, tu vois. Mais bon, pour nous, c'était important de lui montrer. Puis nous, on avait terriblement envie d'y retourner aussi, ça faisait quasiment 5 ans. Enfin, là, ça nous manquait, mais vraiment, vraiment beaucoup.
Est-ce que le retour en France a été difficile? Parce que je me dis, vous êtes resté finalement 6 mois sur place, et puis vous saviez que vous partiez avec pour une durée déterminée, donc peut-être qu'on s'investit, enfin c'est pas qu'on s'investit moins, mais qu'on
oui.
On sait qu'on va rentrer quelque part, par rapport à un expat qui a un visa de 5 ans, mais sait pas si ça va être reconduit ou pas, ou si ça peut, ça va se finir avant, ou être, voilà, prolongé. Est-ce que, comme vous saviez que vous alliez rentrer au bout d'un an, pour vous, c'était qu'une parenthèse,
Oui, c'est ça. En fait, on savait, enfin, on partait pour un an à la base. Mais on s'était dit, on verra sur place, peut-être qu'on restera plus longtemps si on en a l'opportunité. C'était pas, on n'était pas fermé à cette idée, mais bon, finalement ça a été tout l'inverse. Mais en tout cas le retour n'a pas été difficile. Comme je te dis, on s'est vraiment lancé dans un nouveau chapitre de nos vies en fait, où on s'est dit voilà, c'est le moment aussi pour nous de se poser et de faire un enfant notamment. Donc c'était un peu une nouvelle aventure en soi, tu vois. Donc finalement, c'était pas très difficile de fermer ce chapitre-là.
De se relancer dans la vie française, métropole.
Exactement, ouais.
Ok. Avec le recul, y a-t-il eu des choses difficiles quand vous êtes arrivée à Calgary ?
Globalement, je trouve que tout s'est assez bien passé, même ce qui est, pour prendre un numéro de sécurité sociale, tout ça, c'était très fluide, très facile. On s'est fait des amis très facilement, même si c'était des amis français pour le coup. Mais vraiment, non, je trouve qu'il n'y a pas eu de difficulté particulière. Moi, je n'en garde que des bons souvenirs.
C'est super, donc c'est une super expérience.
Ouais, vraiment.
Et maintenant que vous êtes réinstallée depuis, comme tu disais, 5 ans, mm-hmm. Y a des choses que tu regrettes de là-bas ?
Ah oui. Il y a plein de choses qui nous manquent et honnêtement, ça fait maintenant partie de notre vie. Enfin, je veux dire que le Canada et même les États-Unis, ça a vraiment imprégné nos vies. Il y a des choses qu'on, par exemple, au niveau des célébrations, on fête Thanksgiving depuis 2012 chaque année où qu'on soit, tu vois. Et cette année, on a même convié ma famille, tu vois, pour le faire. Et je pense que c'est vraiment une tradition qu'on va garder chez nous. Il y a des choses comme ça
qui vous ont marqué et dont vous êtes imprégné.
Qui nous ont marqué, et... exactement, ouais, c'est ça. On pense au Canada souvent, on en parle tout le temps. Enfin, vraiment, ça a marqué nos vies, concrètement. C'est une superbe parenthèse dans nos vies.
Donc, peut-être, comme tu dis, que ce n'est pas qu'un simple voyage, qu'une expérience d'un an et qu'il y aura une suite d'ici quelques temps. De la façon dont tu en parles.
Peut-être.
On se dit que c'est pas terminé.
Oui, c'est ça. Bah, on n'y est pas fermé en tout cas. Après, je dirais qu'il y a quelques barrières qui nous font un peu plus peur que quand on avait 24-25 ans. Tu vois, c'est déjà le coût de la santé, oui. Le coût des études maintenant qu'on a un enfant, et puis aussi les moyens des proches.
Encore plus avec un enfant.
Parce que autant c'était facile de partir. Exactement. Maintenant qu'on a un enfant, je trouve que c'est plus compliqué de faire le choix de s'éloigner de nos familles. Donc ça, c'est ce qui nous bloque un peu. C'est vrai que s'il n'y avait pas tout ça, peut-être qu'on serait déjà reparti, tu vois, qui sait. Mais voilà, pour l'instant, c'est exactement la réflexion sur laquelle on est. On a envie, mais en même temps, voilà, on hésite quand même beaucoup.
D'accord. Nous supposons que tu écoutes nos podcasts et donc tu sais qu'on aime bien demander à nos invités des lieux... qu'ils ont aimé, des lieux qui les ont marqués. Alors, pas forcément pendant leur expatriation, parce que vous avez quand même beaucoup, beaucoup voyagé. Est-ce qu'il y a des endroits que tu recommanderais à nos auditeurs ?
Alors, pour parler de Calgary, déjà, il y a un endroit que moi, j'ai adoré qui s'appelle Heritage Park, qui est en fait un parc historique de plein air où tu te replonges dans une ville canadienne des années 1880 à peu près. Souvent, dans ce genre de parc, c'est des reconstitutions. Et en fait, là, il n'y a absolument pas de reconstitution. Ce sont des vraies maisons d'époque avec des vraies écoles, des vraies granges, des vrais postes et des boutiques. Qui ont été déplacés en fait dans ce parc. Et vraiment, il est magnifique et très instructif. Et je trouve que c'est vraiment un bel endroit, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes.
Tu le recommanderais à 100%.
Ah ouais, complètement. Je trouve que pour moi, en fait, Calgary, c'est vraiment une ville où il fait bon vivre, mais c'est pas une ville intéressante pour les touristes, si tu veux. Il y a pas grand-chose à faire. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'endroit intéressant. Voilà, quand on y passe en coup de vent en touriste. Après, voilà. Sinon, les gens vont se rendre en Alberta pour les parcs nationaux. Je ne sais pas si tu connais un peu, mais on a des très, très beaux parcs nationaux qui sont...
Alors, j'ai juste en tête des images de Banff.
Voilà, exactement.
Il me semble que c'est en Alberta.
Oui, tout à fait. Mais c'est à une heure de route de Calgary. Et Banff, vraiment, c'est le plus connu, mais il est magnifique. Et tu as aussi Jasper, qui est un peu plus au nord, et Waterton, qui est à la frontière avec le Montana. Donc ça, c'est... En général, les gens viennent en Alberta pour ça, donc ils passent à Calgary deux jours, histoire d'eux, mais tu vois, c'est vraiment pour aller dans les parcs. Sinon, Alors, une chose intéressante, on n'y passe pas des heures, mais c'est que Calgary, à la base, c'était un camp de missionnaires français. Donc, la première ville qui a été à cet endroit-là, c'était une ville française, en fait, en tout cas francophone.
D'accord. En quelle année?
Qui s'appelait... Alors, c'était dans les années 1850, à peu près.
Ok, c'est quand tous les explorateurs viennent baliser le monde.
Voilà, exactement. Et ça, c'est le moment d'un peu de la ruée vers l'or, quoi. Et puis, et à ce moment-là, donc, la ville s'appelait Rouleauville. Et tu peux toujours voir... parce que c'est les frères Rouleau qui l'ont fondée.
D'accord.
Et tu peux toujours voir, en fait, un petit quartier. Alors, il ne reste plus grand-chose. Il y a une fresque, il y a une vieille maison d'époque, et puis une église qui est d'époque aussi, il me semble. Voilà. Et en général, les gens ne savent pas, même les Calgariens, ils ne connaissent pas trop cette histoire de leur
vie.
Voilà. Donc, pour les Français, c'est rigolo, parce que, voilà, tu t'attends pas forcément à voir un petit quartier français comme ça, historique, dans une ville pareille, quoi. Et sinon, à Calgary également, alors un musée qui est sympa, il y a quelques musées, et un qui est assez sympa, qu'on a visité l'an dernier, qui a été construit il y a quelques années, c'est le Studio Bell. C'est le musée national de la musique, donc qui est vraiment axé sur tous les artistes canadiens, donc par exemple Neil Young.
Donc de tout le pays alors, pas que de la région de l'Alberta.
Il y a une section sur l'Alberta, parce qu'il y a quand même, alors je ne me rappelle plus son nom, Janice, alors pas Joplin, l'autre, je ne me rappelle plus. Mais enfin, bon, t'as des artistes, t'as une section sur les artistes albertains, et puis le reste c'est vraiment sur tout le Canada, quoi, que ce soit l'histoire des instruments, les artistes.
D'accord.
Et c'est vraiment sympa.
Ah, super! Une question, tu vois, que j'aurais dû te poser avant, que je viens de penser là. Est-ce que vous avez eu un choc au niveau des températures? Tiens.
Ah oui, c'est une bonne question. Alors, à Calgary, c'est un peu particulier par rapport au reste du Canada. En fait, comme je te disais, c'est très en altitude et il y a un temps très sec. Donc en fait, il fait tout le temps très beau. Il y a 300 jours de soleil par an.
Waouh.
Donc c'est à peu près comme en Corse, tu vois, voilà. Donc il fait tout le temps vraiment très beau et le temps est sec. Donc en général, le froid est pas si insupportable que ça. Et alors, bon, peut-être que l'hiver où on y était un peu particulier, mais on avait en général une semaine de neige par mois. Donc c'est-à-dire que 3 semaines où il faisait des températures acceptables et une semaine où il faisait vraiment moins 20, moins 30.
D'accord.
Mais nous on a trouvé ça assez supportable. Après voilà, on y restait qu'un hiver. Hein. Je dis pas si on y était resté 10 hivers, peut-être qu'au bout d'un moment
c'est compliqué.
Voilà, tu vois plus les choses avec le même regard. Mais c'est vrai que nous on a bien aimé. Il y a eu une journée où il a fait vraiment extrêmement froid, ressenti moins 40. Mmh. Et là oui, ça faisait quand même ça piquait.
Ouais, c'est sûr.
Mais sinon voilà. Mais sinon, franchement, non, c'était quand même agréable comme climat. Donc, on n'a pas eu un gros choc. Et puis, globalement, on est tous les deux, on aime tous les deux le froid et pas trop la chaleur. Donc, ça tombait bien.
Vous étiez préparé, ça, à avoir froid, à avoir des vêtements pour, ou vous avez acheté sur place?
Oui. Alors, un peu les deux. On est parti avec nos vêtements les plus chauds et puis on a racheté sur place tout ce qui était, par exemple, bottes de neige, tu vois. Mais bon, finalement, la technique de l'oignon, elle marche quand même plutôt pas mal. Hein. Tu mets que plein de vêtements les uns sur les autres et en général, ça va.
D'accord. Et tu disais, Calgary est en altitude. Est-ce que tu saurais à quelle hauteur elle se situe?
Alors, il me semble que c'est 1300 mètres, il me semble.
Ah oui, donc vraiment début de montagne.
C'est ça. Bah, de toute façon, c'est dans la ville même qui ont été faits les Jeux Olympiques de 88.
D'accord.
Donc, tu as des stations de ski. Enfin, c'est vraiment la montagne, quoi. C'est,
ouais, ah oui, il y a les stations de ski.
C'est un peu le Grenoble canadien, quoi. Mais c'est ça. Oui, il y a des stations de ski. Tout le monde part. En fait, le week-end, la ville est vide parce que tout le monde part dans les stations.
Super. Vous avez fait du ski, vous aussi?
Ouais.
Vous êtes partie tester?
Un petit peu, ouais. On a fait un peu de ski de fond parce que c'est, enfin, du cross country là, parce qu'ils font beaucoup de ça. On en a fait un peu, c'était pas très glorieux, mais on s'est quand même amusé.
Donc une belle expérience.
Ouais, vraiment, ouais. De bout en bout, ça a été une très belle expérience.
Et au niveau nourriture, vous êtes adapté? Il y a des choses qui vous ont surprise?
Ouais, tu fais bien d'en parler parce que je crois que c'est la chose qui m'a le plus gênée au Canada. En tout cas à Calgary, parce que je pense que c'est quand même assez spécifique, c'est que la nourriture est vraiment pas terrible. J'ai trouvé que même les matières premières, les légumes, les fruits, avaient pas de goût. C'est difficile quoi de trouver quelque chose qui est vraiment bon. Alors du coup, même quand t'as tes recettes à toi, vu que les matières premières sont pas terribles, ça rend pas terrible quoi, tu vois.
Et tu penses que c'est dû à quoi? C'est le fait de l'approvisionnement ou
Je sais pas. Moi, je me dis que c'est peut-être la façon dont les légumes et les fruits sont. Alors, soit oui, ils sont importés. Alors peut-être, je sais pas d'où, mais sinon, la façon dont ils sont produits, si tu veux. Ben, je pense qu'il y avait quand même des OGM, enfin des choses comme ça. Tu vois, c'était pas super clean. Tu voyais que c'était des énormes fruits, par exemple, sans goût. Enfin voilà, c'était pas terrible. Mais et c'est vrai que la veille du jour où on est parti, on a fait une soirée entre Français avec plein de produits français. Et ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas mangé, tu vois, des choses comme ça. Et ça nous a explosé dans la bouche, tu vois. Ça faisait une explosion
de saveurs.
Ah ouais, vraiment, limite, c'était trop, quoi. C'était trop, trop goûtu, trop salé. On n'avait plus l'habitude, quoi. Et là, on s'est dit, waouh, c'est qu'il y a vraiment une grosse différence, quoi, tu vois, au niveau de l'alimentation.
Ouais. Et il y a un plat typique dans cette région du Canada ou...
Alors non, en fait, la spécialité de Calgary, c'est le bœuf. Et sinon, la seule spécialité culinaire, c'est un cocktail qui s'appelle le César, qui est en fait un genre de Bloody Mary avec du bouillon de palourde dedans.
Oh.
Ouais, honnêtement, c'est pas terrible, je trouve, mais...
J'adore le Bloody Mary, mais alors là, tu m'as perdu, quoi. Palourde, c'est définitif.
C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment la seule spécialité, quoi, du coin, donc ouais. Pas terrible.
Mais et puis c'est étonnant parce que en pleine montagne trouver du jus de palourde, du bouillon.
Ouais, c'est vrai que ça colle pas trop avec le reste, mais bon.
Ouais. D'accord. Donc au niveau alimentaire, culinaire, on peut dire que c'est pas une grande réussite.
Ouais, non. Mais je pense que c'est pas représentatif du Canada. Par contre, je pense que c'est vraiment c'est vraiment spécifique
à région.
Calgary ou à l'Alberta. Ouais. Ouais. Tout
d'accord. Bon. C'est pas hyper grave, on va dire, parce que du coup, vous êtes rattrapé en rentrant en France.
Non.
Mais effectivement, je m'attendais pas à ça, en fait.
Ah oui, largement. Bah, disons que c'est quand même un point faible, et c'est aussi, enfin, si un jour on y retourne y vivre, je pense que c'est quand même un point qui va un petit peu nous gêner, et on va devoir trouver quand même des astuces pour pouvoir manger...
Des bons produits.
Voilà, de ne pas déprimer en mangeant. Voilà, ouais. Je pense que après, maintenant, je pense que le bio est un peu plus accessible. À l'époque, il y en avait très peu et c'était très cher.
Oui, parce qu'en 2014-2015, c'était très, très, peut-être encore déjà difficile d'en trouver, voire même extrêmement cher.
Je pense. Ouais. J'ai trouvé qu'à vraiment à l'ouest du Canada, du côté de Vancouver, c'était beaucoup plus simple d'en trouver. Et vraiment, à Calgary, c'était pas très développé à l'époque.
Mais si c'est une station de ski 6-7 mois de l'année, j'imagine que la nourriture aussi est là pour aller à l'essentiel, en fait, pour tous ceux qui vont skier la journée, on mange quelque chose qui tient au corps, et puis...
Ouais, c'est possible. Ouais, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Après, voilà, je pense que c'est juste culturel. Je pense que la culture de la ville est tellement basée sur les extérieurs et les montagnes et les lacs que voilà, il n'y a pas trop de culinaire, quoi, au final. Ouais.
Est-ce que tu as une dernière chose que tu aimerais nous dire ? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit ?
Oui, bah alors c'est un sujet un peu transverse, mais en fait, à la suite de mes deux road trips, j'ai commencé à écrire un livre sur comment voyager, comment faire de longs voyages comme ça de plusieurs mois avec toutes les problématiques que ça comporte, par exemple démissionner son travail, etc., rendre son appartement ou le sous-louer. Et en fait, j'ai écrit un livre ces dernières années et qui devait sortir là en mars chez Hachette Pratique, qui s'appelle « Tout plaquer pour partir au bout du monde ». Et bon, avec toute l'histoire du coronavirus et du confinement, ça a été un petit peu décalé. Donc voilà, il va sortir du coup dès qu'on pourra à nouveau nous aussi sortir. Mais ça, j'ai écrit un livre sur ce sujet en tout cas. Et
c'est super.
Ouais, et franchement, ça a été une super expérience aussi.
Tu nous donneras les références qu'on puisse mettre sur le blog et que voilà, si jamais nos auditeurs veulent le lire.
Il est déjà en précommande, si jamais, voilà.
Ah, génial.
Et il est aussi vendu au Canada, d'ailleurs.
Ça va peut-être intéresser tous les expatriés au Canada, justement, qui se diront « Ah, chouette, une nouvelle lecture !» Et mais comment ça t'est venu, cette idée d'écrire ? T'as toujours aimé écrire ?
Bah, moi, du coup, l'écriture, voilà, c'est vraiment c'est mon travail. Hein. Du coup, j'ai été journaliste.
Oui, à la base, oui.
Puis c'est vrai qu'en rentrant... En fait,
mais il y a une différence entre faire son travail et puis se lancer dans un projet personnel quand même.
C'est vrai. Mais en fait, j'ai un blog aussi, ça c'est un truc que je t'ai pas dit. J'ai un blog depuis tout premier voyage en 2012. Et donc, j'ai l'habitude en fait d'écrire sur mes voyages et de donner des conseils là-dessus. Mon blog s'appelle « À l'Ouest, rien de nouveau ». je te donnerai l'adresse si tu veux. Et du coup, c'est vrai qu'en rentrant du deuxième road trip, je me suis dit, c'est quand même, il y a quand même, enfin, c'est pas si évident de se lancer dans un gros voyage comme ça de plusieurs mois. Il y a quand même pas mal de trucs sur lesquels il faut réfléchir. Et du coup, j'ai commencé à écrire comme ça une liste de conseils. Et petit à petit, ça s'est étoffé. Et en fait, je crois que j'ai terminé de l'écrire à la base en 2015-2016. Donc, je l'avais envoyé à des éditeurs. Et il y en a un qui m'avait dit, bah, pourquoi pas si vous le retravaillez. Et puis ensuite, bon, bah, j'ai eu ma fille, tout ça. Donc, j'ai un peu laissé traîner. Et j'ai relancé une nouvelle version à des éditeurs en 2019. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé un contact chez Hachette Pratique. Et puis, et que ça s'est fait, quoi.
C'est génial. Félicitations.
Ouais. Bah, merci.
Et du coup, ça t'a pris combien de temps J'imagine que c'est hyper long, la relecture, le travail de recherche, l'écriture. Comment ça se passe?
Alors, je pense que la première version, je l'ai écrite en un an. Et ensuite, j'ai quand même beaucoup laissé traîner, tu vois. Et la réécriture, j'ai dû la faire en 3 mois à peu près.
Ah, une fois que t'étais lancée...
Ouais, voilà, c'était plus rapide, tu vois. J'ai juste rajouté des sections, des chapitres. Et j'ai notamment rajouté aussi des témoignages de blogueurs voyage, donc notamment Isabelle, qui a aussi fait un podcast de From Side to Side. Oui. Voilà. Et aussi Laetitia, qui était la cofondatrice du podcast.
Tout à fait.
Toutes les deux, elles ont accepté de témoigner dans mon livre. Ça m'a fait très plaisir.
Super. Et,
ouais. C'est top.
C'est génial. Félicitations.
Bah, merci.
J'ai hâte de le lire.
Ah bah merci.
Et bah, merci beaucoup Anne-Florence pour toute...
Bah, merci à toi.
Pour cette belle interview. C'était super de t'écouter et d'en apprendre plus sur cette parenthèse, comme tu dis, dans votre vie. Et puis sur votre retour en France par la suite et tous ces beaux projets que vous avez quand même menés.
Oui, bah avec plaisir. Écoute, ça m'a fait très plaisir de discuter de tout ça avec toi et de faire un petit peu connaître Calgary, qui n'est pas très connu en général des Français.
Alors j'avais, pour ma part, j'avais je connaissais de nom, mais sans savoir exactement où c'était et ce que c'était, comme type de ville, ce qu'on y faisait. Et maintenant que tu me dis, voilà, c'est un peu central par rapport à tous les parcs de l'Alberta, ouais, ça me donne encore plus envie d'y aller déjà.
Ah bah, je te conseille de faire un road trip là-bas, tu vas en prendre plein les yeux, vraiment, c'est hyper beau. Avec mon mari, souvent on rigole, on se dit que tu sais, les wallpapers, les fonds d'écran Windows, tout ça,
ils sont 90% tous faits là-bas.
Tu vois, les montagnes avec les lacs, c'est toujours Banff, quoi. C'est tellement magnifique, c'est des eaux turquoises et tout.
Waouh!
Vraiment, je conseille à tout le monde d'un jour de faire un voyage là-bas parce que c'est magnifique.
Je note. Dans ma liste qui est déjà longue comme deux bras. Super, merci beaucoup.
Merci à toi.
À bientôt.
Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Merci à notre invité d'avoir accepté de témoigner à notre micro. J'espère que cela vous aura plu. Si vous souhaitez nous aider à grandir, vous pouvez vous rendre sur votre plateforme de podcast préférée. Apple, c'est le must, pour nous mettre de nombreuses étoiles et nous laisser un avis. Cela aide le podcast à gagner en visibilité et pour nous, c'est encourageant et ça nous motive à nous dépasser et à vous proposer des épisodes toujours plus géniaux. Si vous souhaitez discuter de cet épisode, rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Retrouvez la vignette de l'épisode et venez échanger avec l'équipe, notre invité et même entre vous auditeurs. Vous êtes une communauté géniale et nous vous en remercions. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.